Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Situation inédite dans un pays où toute critique peut entraîner la prison, la torture ou la disparition. Un vent de contestation souffle sur le Soudan depuis maintenant plus de 3 mois. À Khartoum, la capitale, comme dans les villes de province, les manifestants descendent tous les jeudis dans la rue. Ils réclament le départ d'Omar el-Béchir, 75 ans, au pouvoir depuis 1989, après un coup d'État soutenu par les islamistes. Un président sous le coup de 2 mandats d'arrêt de la CPI, la Cour pénale internationale, qui entend le juger pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Comment le régime gère-t-il la révolte? La répression aurait fait, selon les sources, de 30 à 50 morts. Dans quelle mesure le pouvoir peut-il répondre aux revendications de la rue? Omar el-Béchir risque-t-il d'être lâché par l'armée et par le système? Si le président soudanais tombait, quelles seraient les conséquences régionales? On en débat avec nos invité. Marc Laverne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géopolitologue, directeur de recherche au CNRS. Christian Delmet, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes ethnologue, chercheur associé au Centre d'études des mondes africains. En ligne avec nous, Clément Dehaye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Université Paris 8, membre du think tank Noria Research. On va d'abord revenir, si vous le voulez bien, aux origines de la contestation qui a éclaté, c'était le 19 décembre dernier. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres, Clément Dehaye?
Alors, la contestation commence en fait quelques jours avant, dans plusieurs autres petites villes de province, mais à Adbara, le triplement du prix du pain a vraiment déclenché la protestation. En fait, c'est vraiment la question économique, la question du prix du pain et des ressources qui va déclencher la contestation.
Marc Laverne, il y a déjà eu dans le passé des révoltes, comme en 2013 contre la hausse du carburant. Quelle est la différence entre la révolte de 2013, par exemple, et ce qui se passe aujourd'hui?
La révolte de 2013, elle venait un peu décalée, mais dans la suite des printemps arabes. Puis aussi, c'était la conséquence de la séparation du nord et du sud du Soudan en 2011, qui a provoqué déjà une première crise économique. Mais aujourd'hui, on est arrivé à une sorte de bout du rouleau, c'est-à-dire que tout l'argent qui avait été accumulé grâce aux ressources pétrolières a été dépensé. Le crédit du Soudan est tombé à zéro auprès des institutions financières internationales et des pays voisins. Donc c'est un régime à bout de souffle aujourd'hui, ce qui n'était pas encore tout à fait le cas en 2013. En 2013, c'était surtout des jeunes qui manifestaient, c'était surtout dans la capitale. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du Soudan qui s'est révolté, et puis c'est, je dirais, l'ensemble de la population, pour les raisons que Clément Dehaye vient d'évoquer.
Christian Delmet, les gens sont tellement désespérés qu'ils n'ont pas d'autre solution que de braver le pouvoir au péril de leur vie aujourd'hui?
Il faut croire qu'ils n'en voient pas d'autres, parce qu'ils ont effectivement du mal à vivre. Les jeunes sont, je crois, à plus de 40% sans emploi une fois qu'ils ont trouvé une qualification ou un diplôme. On est dans une impasse, mais cette chose a commencé dès 2008. En fait, au bout de 10 ans de régime islamique, où c'était la force véritable et des exactions terribles qui faisaient la loi, le pouvoir est devenu relativement vite isolé, fragile curieusement, mais plus il était fragile, plus il était violent. Enfin, c'est un peu la règle. Et depuis 2008, on a sporadiquement des manifestations contre la difficulté de vivre et la difficulté d'être libre au pays du Soudan, qui a effectivement subi beaucoup de changements dans ses environs.
Clément Dehaye, qu'est-ce qu'il y a pour vous d'inédit dans le mouvement d'aujourd'hui?
Il y a beaucoup de choses qui sont inédites, mais ça s'inscrit aussi, donc, comme le disait Christian Delmet, dans une accumulation de pratiques. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années, en effet, qu'il y a des manifestations régulières, et que toutes ces pratiques accumulées, ces expérimentations de résistance contre ce régime depuis 10 ans, elles sont mises ensemble aujourd'hui par les jeunes et d'autres catégories de la population. Il y a beaucoup d'utilisation des réseaux sociaux, mais il y a aussi quelque chose de nouveau depuis une trentaine d'années, c'est la réémergence de syndicats professionnels pour diriger ce mouvement, donc qui est la SPA, l'Association des professionnels soudanais, qui lance des appels à manifester régulièrement et qui est très suivi par la population.
Pourquoi les syndicats sont-ils désormais inexistants?
Quand le régime a pris le pouvoir dans les années 90, le régime a complètement détruit, a fait des énormes purges, a complètement détruit les syndicats. Alors le Soudan avait des syndicats issus notamment du Parti communiste et du mouvement ouvrier qui étaient particulièrement forts, y compris des ouvriers agricoles mais aussi des ouvriers industriels, et des catégories socioprofessionnelles organisées, donc médecins, avocats, professeurs. Et en 90, le régime va complètement détruire ses contre-pouvoirs. Et depuis, en effet, 2008-2010, des associations professionnelles essayent de se reconstruire. Donc c'est des médecins, des professeurs, des avocats à nouveau, qui essayent de construire une plateforme pour s'opposer au régime.
Et comment fonctionne cette association des professionnels soudanais? Quel est son rôle précis dans le mouvement de contestation donc qui se produit au Soudan depuis maintenant plus de 3 mois?
C'est une association professionnelle qui s'est créée il y a assez peu de temps, donc c'est l'alliance de plusieurs associations donc professionnelles, journalistes, médecins et avocats à la base, que d'autres ont rejoint depuis, pharmaciens et instituteurs. C'est une plateforme, donc chacun de ces associations a élu un conseil qui est secret à peu près, donc on connaît quelques noms parce que des gens ont été arrêtés, mais donc c'est quelque chose d'assez secret, qui donne des informations, qui donne des mots d'ordre, mais qui est relativement déconnecté du terrain. Ce sont des catégories socioprofessionnelles assez élevées dans un état très sécuritaire, et donc qui communiquent majoritairement via les nouveaux outils, les réseaux sociaux, des plateformes sécurisées, etc., pour donner des consignes. Et donc vous avez quelque chose à deux niveaux, donc un niveau de quartier où les gens se mobilisent en suivant les appels, et un niveau beaucoup plus haut d'impulsion politique.
Alors qui sont exactement ces manifestants qui défilent aujourd'hui dans les rues? Alors au début c'était des manifestations quasi quotidiennes, depuis l'imposition de l'état d'urgence le 22 février, je crois que c'est plutôt le jeudi que les gens descendent dans la rue. On a dit que finalement ce n'était pas les Soudanais les plus pauvres qui ont investi la rue. Est-ce que c'est vrai? Comment vous l'expliquez?
Il y a deux choses. Donc au début, c'est une révolte donc dans les villes de province. Quand ça commence dans les villes de province, il y a un peu tout le monde dans la rue. C'est une révolte de l'ensemble de la ville, donc les travailleurs journaliers du marché, des paysans, des gens des petites villes qui vont se mobiliser avec les étudiants et les lycéens. Il y a beaucoup de lycéens dans la rue. Hein. Les écoles sont régulièrement fermées, beaucoup de lycéens dans la rue. Et au fur et à mesure, quand c'est rentré dans la durée et que ça a touché Khartoum de manière massive, ces catégories professionnelles-là, on est rentré plutôt dans des classes moyennes parce que c'est des gens qui ont plus de capacité de se mobiliser sur le long terme, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soutien dans la population des personnes plus marginalisées et plus pauvres. C'est juste que c'est plus difficile de se mobiliser et que la répression n'est pas la même non plus au Soudan en fonction des classes professionnelles et l'endroit de l'origine régionale des personnes. Et donc, forcément, au fur et à mesure, ce sont plus les classes moyennes qui ont pris le devant de la scène. Ça ne veut pas dire que le reste de la population ne soutient pas.
Christian Delmet, est-ce que dans la contestation, les clivages musulmans, chrétiens, arabes, non-arabes ont disparu ou pas?
Au Soudan du Nord, il n'y a plus tellement de chrétiens, donc ils ne manifestent pas vraiment. Ils ne sont, pour ainsi dire, plus là, les chrétiens. Ils sont dans certains quartiers, mais je ne pense pas qu'ils manifestent en ce moment. Ils ont d'autres intérêts, d'autres préoccupations. Mais effectivement, les pauvres ne sont pas là. Les pauvres sont soit dans des campagnes herculées, soit dans des bidonvilles, et c'est pas leur préoccupation. La préoccupation est beaucoup plus basique pour les gens qui n'ont rien de rien.
Marc Lavergne, est-ce que vous avez été étonné par la façon dont Omar el-Béchir a géré la crise? Dans un premier temps, le président a demandé, je cite, aux rats de regagner leur trou. Il a fait appel aux agents du NIS, le tout-puissant service national du renseignement de la sécurité, et aux miliciens du parti pour disperser les manifestations. Les tirs à balles réelles ont fait, selon un bilan officiel, 30 morts, 51 morts selon Human Rights Watch. Un millier de personnes en décembre auraient été arrêtées, selon les ONG de défense des droits de l'homme. Mais pour vous, la répression a été moins lourde que ce qu'on aurait pu imaginer.
Bon, il ne faut pas oublier que ce régime ne tient depuis 30 ans que par la guerre contre son peuple. C'est-à-dire que c'est au moins 4 millions de Soudanais qui ont été la victime de guerres civiles, à la fois de la guerre au sud d'abord, jusque dans les années 2002-2003, puis au Darfour immédiatement après. Et donc on est au courant de la nature de ce régime, et il repose sur l'armée, donc une armée, encore une fois, qui n'est pas faite pour défendre les frontières du pays, mais pour mater la population, et puis le fameux régime, le NISS que vous évoquiez, hein, les services de renseignement intérieur, qui sont un maillage extrêmement fin sur l'ensemble du territoire et qui constituent par eux-mêmes l'assise du régime. Et je ne sais pas si c'est le président Omar el-Béchir qui fait appel au NISS ou c'est le NISS qui s'impose pour redresser la situation. Hein, on est dans un régime qui n'est pas du tout personnalisé. Hein, c'est un conglomérat d'intérêts à la fois militaires, sécuritaires, islamistes et puis d'hommes d'affaires. Et tous ces gens-là sont là depuis 30 ans dans une sorte de circuit fermé pour tenir l'ensemble du pays. Et il revient effectivement aux services de sécurité de mater la population quand c'est nécessaire.
Vous avez dit qu'Omar el-Béchir était un paravent. Est-ce que ça veut dire que c'est un personnage fallot ou pas du tout? Parce qu'il est quand même là depuis 30 ans, bientôt.
Il a pris de l'épaisseur au fil des années. Hein. Je crois que c'est plus un fléau de la balance. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'intelligence de maintenir des relations avec les différents clans. Il était en confrontation avec Hassan el-Tourabi, qui était le mentor de la révolution. Il a réussi à l'écarter pour revenir vers une ligne plus médiane lorsque les richesses pétrolières sont apparues au Soudan. Et que les gens qui constituent l'assise du régime ont voulu calmer le jeu, je dirais, ouvrir des relations avec l'Occident, qui ont accepté, effectivement, sous la contrainte américaine, l'indépendance du Sud, mais qui voulaient surtout bénéficier des richesses pétrolières qu'ils ont réussi à accaparer sans aucun profit pour le pays. Hein. Ce sont 70 milliards de dollars au moins qui sont évaporés dans les banques occidentales en particulier et qui ont conduit à cette situation actuelle.
Clément Déhay, est-ce que la répression ne se fait pas dans l'ombre, dans les fameuses maisons fantômes? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette spécialité soudanaise, entre guillemets?
La répression, elle est en effet plus faible, comme le disait M. Laverne, mais elle est quand même, faut pas oublier que c'est un régime qui est quand même assez violent, et donc elle est quand même là. En fait, les maisons fantômes ont été créées dans les années 90 pour briser les opposants. Le principe, c'est qu'on emmène des opposants pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines dans des maisons qui ne sont pas répertoriés comme appartenant à l'État ou aux services de sécurité. Et les gens dans ces maisons-là sont torturés violemment, souvent collectivement. Donc souvent, c'est plusieurs opposants en même temps qui sont battus et torturés. Il y a beaucoup de cas de viol et d'agression sexuelle dans ces moments-là. Et c'est vraiment des endroits qui sont faits pour briser les opposants. Depuis la séparation du Sud-Soudan, on a vu cette pratique réapparaître en même temps que les pratiques de manifestation et d'opposition au régime. Et aujourd'hui, il y a eu plusieurs documentaires, il y a eu plusieurs documents de défenseurs des droits de l'homme qui sont sortis pour documenter cette utilisation à nouveau massive de ces maisons fantômes, avec aussi ce que les Soudanais donc appellent le frigo, donc l'utilisation du froid comme torture.
Est-ce qu'il y a une répartition des rôles au sein du pouvoir? Par exemple, le président el-Béchir, je l'ai dit, a imposé le 22 février l'état d'urgence dans tout le pays pour un an. Délai qui a été ensuite ramené à 6 mois par le Parlement. Au même moment, le vice-président soudanais expliquait que l'état d'urgence ne visait pas les manifestants, mais qu'il devait servir à lutter contre la contrebande. Or, dans les faits, c'est faux, puisque participer à des manifestations peut valoir jusqu'à 10 ans de prison. C'était la peine maximale au début, le 22 février. Un mois plus tard, le 21 mars, cette peine a été réduite à 6 mois maximum. Donc les manifestations ont diminué. Il n'y a plus tous les jours, mais plutôt au rythme d'une fois par semaine. Donc est-ce que ces sons de voix différents sont organisés ou est-ce que c'est des initiatives des uns et des autres?
Bon, alors les manifestations ont repris là depuis une semaine à peu près tous les jours. Il y a eu un retour de manifestations, donc il y avait eu en effet une baisse pendant un mois après l'état d'urgence et la répression qui a accompagné l'état d'urgence, mais là c'est en train de reprendre à nouveau. Il y a une nouvelle dynamique qui est en train de se créer, et donc on va voir évidemment dans le futur ce que ça va donner. Sur les questions de pouvoir, je pense qu'il y a eu beaucoup de réajustements de la coalition autoritaire, donc de la coalition qui est au pouvoir, et que ces jeux-là sont des jeux, en effet, comme vous le dites, de pouvoir à l'intérieur. Donc c'est des initiatives pour essayer de tester, de tenter des choses à l'intérieur, parce que c'est une période aussi de recomposition pour le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, aussi une période d'opportunité pour certaines personnes qui peuvent être ambitieuses. C'est une période d'opportunité pour Omar el-Béchir d'écarter un nombre de personnes aussi qui le gênent. Et cet état d'urgence, en fait, ne change pas tellement de choses, parce que la répression était déjà là, et que cet état d'urgence a juste permis de mettre en place un État basé sur l'armée. Donc il y a un nouveau gouvernement, des nouveaux gouverneurs, quasiment tout le monde fait partie de l'armée et des services de sécurité. Donc on militarise le régime et on écarte certains des islamistes et certains des membres du parti au pouvoir qui peuvent gêner politiquement Omar el-Béchir. Donc on est aussi dans une période de recomposition de l'opposition, mais aussi à l'intérieur du pouvoir.
Christian Delmet, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Clément Dehaye? Quand Omar el-Béchir nomme à la tête des 18 régions du pays 16 officiers et 2 responsables du NISS, on peut parler d'un retour à un régime militaire, comme l'ont dit les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et la Norvège?
Oui, bien sûr, on n'est pas parti vers ce que demande l'opposition, c'est-à-dire un rassemblement national avec un gouvernement de transition où serait représenté tout le monde, y compris le parti du président. Mais vous savez que l'opposition demande depuis des années, Tourabi lui-même leur demandait, est-ce qu'il y ait dès maintenant un gouvernement de transition qui préparerait de véritables élections dans quelques années. Et le président actuel, après avoir écarté des gens, après les avoir repris à son service, n'a plus effectivement qu'une boussole, c'est celle de ses amis haut gradés de l'armée et les gens qu'il a placés au cours des années dans les principales institutions sécuritaires du pays.
Marc Lavergne, ces nominations, ces changements, ce sont des gages donnés à l'armée, parce qu'on on a vu des jeunes soldats pactiser avec les manifestants.
Oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est une stratégie de défense, de resserrer les rangs, et c'est aussi un aveu de faiblesse. Mettre en avant le visage militaire et sécuritaire du régime, c'est avouer qu'il n'a pas de base populaire ou très peu. Alors, c'est vrai qu'il y a en même temps des gens qui ont bénéficié de ce régime à une certaine époque. Je me souviens de la période transitoire entre l'accord de paix global de Naivasha en 2005 et puis la séparation du Soudan en deux en 2011, il y a une période d'une certaine libéralisation politique avec le grand mouvement rebelle qui était représenté au cœur du pouvoir. Il avait des ministres, il avait des parlementaires, des ambassadeurs. Donc il était installé à Khartoum et dans toutes les villes du pays. Donc les Soudanais ont goûté à cette période de libéralisation qui s'est terminée brutalement en 2011, qui a donné les émeutes de 2013 qu'on évoquait. Mais il y a toujours cette idée que on est dans un jeu de balance ou d'intégration et puis de renforcement à d'autres moments de la citadelle du cœur du régime. Alors là, je crois que le débat, il est surtout à l'intérieur du régime aujourd'hui et non pas du tout avec l'opposition. Avec l'opposition, il y a des tentatives d'essayer de récupérer certains dirigeants comme Sadiq El Mahdi, par exemple, qui pourraient donner une façade représentative et acceptable aux yeux des puissances occidentales. Mais au fond, c'est une lutte pour le pouvoir qui a commencé pour prendre la place d'Omar el-Béchir et assurer la survie de ce régime.
Clément Dehaye, Omar el-Béchir a quand même eu des déclarations un peu apaisantes, entre guillemets, en admettant que des lois controversées sur l'ordre public avaient alimenté la colère des jeunes. Des lois qui punissent les femmes, par exemple, accusées de porter une tenue indécente ou d'avoir un comportement immoral. Est-ce qu'il peut se permettre de dire cela sans se mettre à dos les islamistes, ou est-ce qu'il s'en moque finalement de la façon dont peuvent réagir les religieux, les islamistes?
C'est plus stratégique qu'autre chose, parce que ces lois, elles ont été mises en place par le Conseil révolutionnaire de l'armée dans les années 90, quand Omar el-Béchir le dirigeait. Il est en accord avec ces lois. C'est plus quelque chose de stratégique aujourd'hui pour essayer d'apaiser la colère. Beaucoup des islamistes qui sont aujourd'hui au pouvoir, on va dire avec Omar el-Béchir, sont des pragmatiques. Ça fait 30 ans qu'ils sont au pouvoir. Ils sont prêts à quelques ajustements dans leur majorité pour apaiser la colère. En plus, cette idée, elle vient pas d'Omar el-Béchir, elle vient en fait de Salah Gosh, qui est le chef du NIS, qui est le directeur des services de sécurité, qui a fait plusieurs déclarations dans ce sens-là, et on a vu Omar el-Béchir reprendre cette déclaration une semaine ou deux après son directeur des services de sécurité, voyant en fait que ces services de sécurité sont débordés et que l'analyse des services de sécurité serait de baisser la pression sur les jeunes et les femmes pour permettre l'apaisement général. Ça paraît relativement illusoire parce qu'on n'en est plus là aujourd'hui, je pense, dans la révolution soudanaise. Mais Omar el-Béchir a tenté quelques gestes d'apaisement. On sait aussi qu'il a déclenché des pourparlers avec des envoyés américains au Kenya, etc. Mais que ces pourparlers n'aboutissant pas, il a déclaré l'état d'urgence. Donc je pense qu'on a dépassé le moment d'apaisement et que là, on est sur un moment plus sécuritaire et plus militariste.
On va continuer à en parler dans 10 minutes, juste après un nouveau journal sur RFI. Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique consacrée à la vague de contestation qui secoue le Soudan. Omar El-Béchir est-il un président en sursis? On continue d'en débattre avec les chercheurs Marc Lavergne, Clément Dehaye et Christian Calmet. Début mars, Omar El-Béchir, qui dirigeait depuis 1989, depuis le coup d'État, le parti du Congrès national, a remis les rênes du parti à son adjoint, Ahmed Haroun, un adjoint visé comme lui par un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au Darfour. Marc Lavergne, comment vous interprétez cette décision du président soudanais?
Je crois que c'est une façon de se mettre un petit peu en retrait, d'essayer de présenter de nouveaux visages. C'est quelque chose qui n'est pas très original. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il vise, c'est sa réélection l'an prochain, qui implique un changement de la Constitution et qui provoque sans doute beaucoup de réticences au sein même de son mouvement. Donc il essaye de regrouper ses alliés, sachant que s'il n'est pas réélu président, se posera la question de sa mise en accusation auprès de la Cour, son arrestation et son extradition peut-être auprès de la Cour pénale internationale. Donc il essaye de trouver des moyens de se protéger contre cette perspective.
Clément Dehaye, vous pensez que Omar El-Béchir reprendra la tête du parti quand la tempête se sera calmée?
Pas forcément avec Ahmed Haroun, il a un de ses plus loyaux partisans qui prend la tête du parti. Il a besoin aujourd'hui de prendre de la distance et de se dire chef de l'État pour être élu, en effet, comme le disait Marc Lavergne. Il reprendra probablement pas la tête du NCP, qui probablement aussi changera de forme, parce qu'il y a beaucoup de discussions qui sont lancées par Mohamed Haroun et par Omar El-Béchir sur changer la nature de ce mouvement et de ce parti. Donc je pense pas qu'il reprendra nécessairement la tête. Il a des personnes loyales pour le faire.
Mais en même temps, la règle jusqu'à présent, c'était que le chef du parti devenait automatiquement le candidat de ce même parti pour la présidentielle. Or, la présidentielle est prévue en 2020.
Oui, mais en mettant Ahmed Haroun, Omar El-Béchir met quelqu'un qui n'est pas dangereux pour lui. C'est quelqu'un qui est assez peu populaire dans les rangs des islamistes, qui n'a pas de légitimité historique, contrairement à d'autres figures comme Ali Osman Taha ou Nafi El Nafe. Et donc qui n'est pas vraiment dangereux pour lui, et c'est pour ça qu'il est placé là. Il est lié par ses poursuites communes par la Cour pénale internationale, et donc ils vont probablement changer les statuts du parti pour que ça ne pose pas de problème. Mais Ahmed Haroun n'est pas un danger aujourd'hui politique pour Omar El-Béchir, et c'est pour ça qu'il a été choisi.
Christian Delmay, est-ce qu'Omar El-Béchir est sur un siège éjectable d'après vous, ou est-ce qu'il va s'accrocher pour réformer la Constitution afin de briguer un nouveau mandat?
Siège éjectable, peut-être, mais par qui? Qui va l'éjecter? Les oppositions qui se rassemblent comme elles peuvent, mais sans vraiment réussir un programme commun, ou une partie des appareils sécuritaires? Pour lui, sauver sa peau, c'est rester au pouvoir, on l'a dit. Alors la façon de rester au pouvoir, est-ce que c'est d'accroître la violence? C'est pas sûr qu'on aille vers plus de violence encore. Il se peut que des gens autour de lui et lui-même prennent conscience que l'issue, ce serait de temporiser, de négocier. Et c'est là que les puissances occidentales pourraient avoir leur rôle. Comment s'en sortir? Bon, est-ce qu'on s'en sort par un bain de sang ou par une négociation? La violence politique ou militaire exercée sur ce régime pourrait ouvrir une crise épouvantable. Et certains analystes pensent qu'il vaut mieux essayer donc de rapprocher tous ses ennemis, que tout le monde se mette autour d'une table, peut-être pas avec Béchir, mais avec ses hommes. La seule façon de s'en sortir, il faut qu'il comprenne ça, lui et ses amis qui ont aussi pas mal de casseroles, pas mal de choses à se faire pardonner, il faut qu'il comprenne qu'il faut qu'il accepte de ne plus être là. La façon de s'en sortir, c'est de voir comment lui peut échapper au pire de son point de vue.
Clément Dehaye, est-ce que le pouvoir soudanais a une marge de manœuvre pour répondre aux revendications, non pas politiques, mais juste économiques des manifestants?
C'est le cœur du problème, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir est exsangue économiquement. Ils n'ont plus de marge de manœuvre. Ils sont embourbés dans des guerres civiles qui drainent la plupart des dépenses publiques et qui ne permettent pas de redistribution dans ce pays. Et donc aujourd'hui, la crise économique est profonde Et l'État n'a pas d'argent, n'a pas de moyens pour s'en sortir aujourd'hui. Omar El-Béchir est allé au Qatar, ils sont allés dans plusieurs pays pour essayer de demander des fonds, pour essayer de redresser la situation. Mais pour l'instant, à part les Émirats Arabes Unis qui leur ont prêté 300 millions d'euros, personne ne veut voler au secours de ce régime qui a besoin d'argent frais pour sortir de la crise économique, cette crise nourrissant les protestations.
La levée des sanctions américaines en 2017 n'a pas été une bouffée d'oxygène suffisante pour relever l'économie, Clément Dehaye ?
Le problème de cette levée des sanctions, c'est que ce pays a été libéralisé économiquement, les principales industries ont été privatisées et entreprises d'État privatisées. Donc c'était un pays un peu coupé du monde par le boycott, mais très libéral. Et d'un seul coup, ce pays très libéral a été mis dans le bain international et donc n'avait pas les reins pour tenir. Et ça a en plus aggravé la situation que l'a amélioré.
Alors aujourd'hui, l'image du Soudan est extrêmement négative à l'étranger. Cette image négative, elle existe depuis la grande époque du prédicateur Hassan El-Tourabi, dont vous parliez tout à l'heure, Marc Lavergne. Est-ce que au sein du régime, cette image négative, beaucoup en ont assez, par exemple, et rendent Omar El-Béchir responsable d'avoir continué à entretenir cette image négative avec sa politique au Darfour, notamment?
Mais paradoxalement, cette image négative, elle est aussi due, en tout cas dans les pays voisins, les pays proches, dans ce double jeu qui a été celui du Soudan en permanence. Il a été l'allié de l'Iran, et puis du jour au lendemain, il a rompu toute relation avec l'Iran pour se rapprocher de l'Occident.
Ça, c'était il y a 3 ans.
Et voilà, maintenant, il est dans la coalition qui est dirigée par l'Arabie Saoudite au Yémen, mais en même temps, il essaye de garder des liens avec le Qatar et la Turquie, qui sont des liens extrêmement forts. Et je pense que ça indispose un peu tout le monde et tous ceux qui seraient prêts à l'aider s'aperçoivent d'une part que l'argent disparaît, que le Soudan n'a plus rien à vendre même s'il a des ressources pétrolières et aurifères. C'est un pays qui, quelle que soit la levée des sanctions, quels que soient ses efforts aujourd'hui, a perdu tout crédit sur la scène internationale auprès des banques étrangères, au pays des pieds étrangers. Clément Dehaye évoquait à l'instant les Émirats qui ont fait un prêt de 300 millions de dollars, mais on est loin du compte, hein, puisque effectivement 80% des ressources sont dirigées vers la guerre, et vers la guerre, ça veut dire vers les forces de sécurité et vers l'armée. Et si on arrête de redistribuer ces prébendes aux officiers de sécurité ou de l'armée, eh bien le régime perd son assise. Donc il ne peut pas arrêter la guerre. La guerre est à la fois menée contre des gens qui sont en révolte, mais aussi c'est un moyen de justifier les sommes qui sont dépensé en faveur de toutes ces forces militaires et sécuritaires.
Clément Dehaye, le fait que Omar El-Béchir soit sous mandat d'arrêt de la CPI depuis mars 2009 et qu'il n'a jamais semblé perturbé par ce mandat, il n'a jamais cessé de voyager, hein, 150 déplacements à l'étranger en 10 ans, de Pretoria à N'Djamena, de Pékin à Moscou, en passant par le Caire et Damas. Est-ce que certains au cœur du système, lui, reprochent cette attitude, cette façon de narguer la Cour pénale internationale ?
Non, pas forcément, parce que même pour les Soudanais, même une grande partie des Soudanais avec qui on peut parler régulièrement, considèrent que cette accusation est un peu ridicule et que Omar El-Béchir devrait être jugé par des Soudanais. Donc il n'y a pas forcément de reproche à l'intérieur, sachant que Omar El-Béchir, à la fin des années 90, se sépare aussi d'Hassan El-Tourabi pour essayer de se remettre avec les Occidentaux, avec d'autres partenaires. Et donc Omar El-Béchir, dans le régime, a plutôt été quelqu'un qui a porté la parole d'une ouverture, etc. Donc cette mise en cause par la CPI plus tard, donc à la fin des années 2000, c'est un coup assez fort porté à ces tenants du régime qui étaient porteurs d'ouverture, mais il n'y a pas de ressentiment particulier dans le régime, sachant que beaucoup des hauts cadres du régime sont aussi touchés par ces poursuites. Et donc il n'y a pas forcément de ressentiment. Par contre, aujourd'hui, une partie des gens pensent que Omar El-Béchir ne doit plus représenter le Soudan à l'extérieur, mais on ne peut pas parler de ressentiment, c'est plus qu'il est embarrassant maintenant par sa figure, mais parce qu'il y a une révolution. Il y a quelques années, ça ne posait pas de problème.
Clément Dehaye, vous parliez de la séparation entre Omar El-Béchir et Hassan El-Tourabi. Est-ce que l'échec du régime actuellement à gérer le pays, c'est aussi l'échec des islamistes ?
Ah, bien sûr, c'est lié en tout cas. Le projet islamiste, le projet révolutionnaire, parce que c'était vraiment une révolution islamiste dans les années 90, hein, portée par Hassan el-Tourabi et le National Islamic Front, c'est quelque chose de très fort, hein. Islamisation de la société, libéralisation économique, arabisation des programmes scolaires, c'est quelque chose de très très fort qu'ils ont appelé le projet civilisationnel. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant, mais qui a rencontré dans la gestion de l'État des fortes difficultés, parce que c'était un petit mouvement qui a pris de l'État avec une partie des militaires, et que la gestion de l'État s'est avérée assez mauvaise, et que leur capacité à mettre en place leur programme politique et leur programme économique n'a pas du tout marché, qu'il y a eu de la corruption, que les programmes politiques de représentation de la population n'ont pas fonctionné, et donc c'est plus une faillite politique générale. Alors après, il y a eu des querelles de personnes entre différents groupes et selon différentes orientations idéologiques, mais c'est avant tout une faillite de la gestion de l'État.
Et est-ce que les islamistes sont conspués par les manifestants dans la rue? Il n'y a pas de remise en cause, par exemple, de la charia?
Moi, les slogans sont majoritairement des appels à la démocratie, au respect des droits humains, à la paix, à la justice sociale, parce que c'est aussi ça, des revendications économiques. Il y a assez peu de revendications directes contre la charia ou l'islam. C'est un pays qui est musulman à 99%, qui vit sous la charia, non pas depuis 89, mais depuis 83, depuis les lois de septembre. C'est le dictateur d'avant qui avait mis en place ses premières lois. Et donc, la question de l'islam n'est pas forcément une question en soi pour beaucoup des manifestants. Le problème, ça va plutôt être les public order law, donc les lois d'ordre public, qui empêchent les femmes de porter des pantalons et des choses comme ça. Ça va plus être sur les libertés individuelles que les gens vont se rebeller. Mais remettre en cause le caractère islamique de l'État, etc., on n'en est pas forcément là dans les manifestants. Les opposants politiques, les militants politiques et les organisations politiques, eux, portent cette revendication-là. Mais dans les slogans de la population, ce sont plutôt des slogans de démocratie, justice sociale, etc.
Marc Laverne, qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui au Soudan du projet islamiste porté par Hassan al-Tourabi?
Moi, je crois déjà que c'est assez significatif que les gens ne mentionnent pas du tout l'islam dans les slogans. D'autre part, le mouvement islamiste qui était porté par Hassan al-Tourabi était assez particulier dans la mesure où il était effectivement modernisateur, qu'il avait été préparé depuis les années 60 avec des cadres qui étaient prêts à gérer l'État selon de nouvelles normes, qui étaient celles un peu des banques islamiques et d'un mouvement, d'un réveil de l'islam, d'une modernisation de l'islam et à l'échelle internationale. Il y avait un projet de conquête du monde, en quelque sorte, par Hassan el-Tourabi, hein, qui se voulait un concurrent de l'Arabie Saoudite, qui voulait faire de Khartoum une nouvelle Mecque, si vous voulez, avec le soutien à tous les mouvements subversifs à l'échelle de la planète,
et
comme il avait commencé à le faire.
Qu'il avait accueilli Ben Laden,
par exemple, hein, jusqu'en 1996, et qu'il a été écarté par Omar el-Béchir et par une tendance qui était plus d'ouverture, mais que aujourd'hui cette pensée d'Hassan el-Tourabi subsiste. Alors, il avait compris, je crois, un élément qui est très important pour comprendre la réalité soudanaise, c'est qu'il y a des clivages ethniques, raciaux, on pourrait presque dire, et il pensait que la base de tous les régimes soudanais était trop étroite. C'était les gens de la vallée du Nil qui se veulent de civilisation arabe et musulmane, alors que la majorité du pays, des périphéries en particulier, qui est beaucoup plus prolifique démographiquement, mais qui est beaucoup plus pauvre aussi, devait être intégré dans l'appareil d'État pour lui permettre de durer. Et je crois que cette ouverture de Tourabi vers des gens qui étaient originaires des marges du Soudan, c'est quelque chose qui a été refermé par Omar el-Béchir et les gens qui l'entourent, qui sont tous originaires aujourd'hui de la vallée du Nil, au nord de Khartoum, et de quelques tribus qui sont considérées comme étant un peu plus égales que les autres, voire qui sont une sorte d'aristocratie autoproclamée du Soudan tout entier. Et c'est ça aujourd'hui qui est aussi en jeu, je pense, avec ce réveil de l'ensemble de la population. C'est aussi en toile de fond, et derrière les mouvements armés qui se battent dans les montagnes, dans les périphéries, eh bien, un rebattage des cartes, si vous voulez, du pouvoir au Soudan.
Christian Delmet, un effondrement du Soudan, ça fait peur aux pays voisins et au monde arabe en général?
Je crois que ça fait peur à tout le monde, y compris aux Européens et aux Américains. Le fait que le gouvernement soudanais ait conclu des accords avec l'Europe pour filtrer les migrations.
Parce que c'est ce qui fait peur aux Occidentaux, de nouvelles vagues.
Oui, donc là, il n'est pas fou, le gars, vous savez. Les Américains l'ont considéré comme un allié. Évidemment, il leur a filé les adresses de tous les islamistes qu'il avait rencontrés à Khartoum quand il a créé une association islamique concurrente de celle qui existait, qui avait des congrès de tous les islamistes à Khartoum dans les années 90. Donc, il avait matière, les renseignements soudanais, travaillent de concert avec la CIA. Les relations avec le Tchad, elles sont bonnes, se sont rendues des services. À la frontière éthiopienne sont constituées des unités mixtes pour protéger la frontière sur, justement, les passages et les trafics d'êtres humains. Mais se débarrasser de Béchir, c'est simple pour personne. C'est pas simple pour son entourage, c'est pas simple pour l'opposition soudanaise et c'est pas simple pour la communauté internationale.
Clément Dehaye, vous pensez que si la contestation ne s'essouffle pas, ne s'arrête pas, Omar el-Béchir pourrait se faire débarquer en douceur par le système soudanais ?
Il y a plusieurs options aujourd'hui qui peuvent se dérouler. Il y a en effet cette option-là du système soudanais. Après, quel système ? Est-ce que ce sera plus les militaires ou plus le parti qui vont essayer d'éjecter Omar el-Béchir ? Moi, je pense que le risque le plus fort aujourd'hui pour Omar el-Béchir, c'est la faillite de l'État. C'est la faillite complète. Aujourd'hui, ils sont en rupture de paiement, ils ont du mal à payer les salaires, il y a des pénuries régulières, et que le risque le plus fort, ce serait plutôt un effondrement de l'État, et de fait un scénario plus noir et plus compliqué à gérer, et pour l'opposition, et pour les services de sécurité. Mais je pense que le plus probable aujourd'hui, si les manifestations continuent, et si économiquement on reste sur un blocage, l'État soudanais peut entrer en faillite assez rapidement dans les mois à venir, et avoir de grandes difficultés. À ce moment-là, il y aura probablement des réactions, mais c'est encore un petit peu tôt pour le dire.
On parlait tout à l'heure de Sadek El-Mahdi, l'ancien Premier ministre évincé du pouvoir en 89. Il a apporté son soutien et le soutien de son parti, Al-Oumma, aux manifestants. Idem pour le parti communiste et pour les branches politiques de plusieurs groupes rebelles. Est-ce qu'on pourrait voir naître un front uni de l'opposition ou est-ce que celle-ci a été trop laminée, Clément Dehaye ?
Alors, aujourd'hui, l'opposition est unie. Depuis le début des manifestations, en tout cas sur le papier, l'opposition suit les recommandations de l'Association des professionnels. Elle a commencé à discuter en tant que partenaire avec cette association aussi des professionnels. Et donc, on a une forme d'unité dans l'opposition à Omar el-Béchir. Après, les différentes composantes de cette opposition sont très affaiblies par 30 ans du régime islamiste et par la destruction systématique de leur base sociale. Mais aujourd'hui, ces partis politiques qui ont eu des difficultés ces dernières années, il y a eu beaucoup de scissions, il y a eu beaucoup de complications entre eux, et relativement unis. On a vu à Paris, donc la semaine dernière, le Soudan Call, donc qui est une alliance de groupes rebelles et de partis politiques, se revigorer un petit peu et se relancer. Mais après, au sein de ces partis-là, il y a des tendances différentes. Donc évidemment, le parti communiste, les partis basses, nassériens, etc., sont sur un soutien total à l'association des professionnels et réclament le départ sans condition d'Omar el-Béchir. Sadek El-Mahdi est plus modéré. Sadek El-Mahdi est donc quand même le chef d'une confrérie soufie, enfin qui n'est pas vraiment une confrérie soufie, mais bon, qui ressemble énormément, donc qui est aussi un leader religieux, qui est capable de parler avec un certain nombre d'opposants islamistes internes au régime. Et donc, on a une recomposition de l'opposition qui généralement demande le départ d'Omar el-Béchir, mais pour l'après ne demande pas nécessairement la même chose.
Marc Lavergne, brièvement, vous le voyez partir, Omar el-Béchir, ou pas ?
Oui, je le vois partir, mais pour autant, je ne vois pas la chute du régime se profiler, dans la mesure où l'opposition est effectivement difficile à unifier, chacun a des arrière-pensées, a des soutiens extérieurs aussi différents. Donc, pour l'instant, je crois que le jeu se fait à l'intérieur du régime. Salah Gauche est un prétendant au trône. Il a d'ailleurs été écarté pendant quelques années avant de revenir sur la scène, appelé par Omar el-Béchir. Mais enfin, je pense que c'est celui qui tient la corde un peu pour succéder au président.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités. Marc Lavergne, géopolitologue, directeur de recherche au CNRS. Clément Dehaye, chercheur à l'Université Paris 8, membre du think tank Noria Research. Et Christian Delmet, ethnologue, chercheur associé au Centre d'études des mondes africains. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand qui m'a aidé à la préparer. À bientôt.